au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, sommes-nous uniques ? Oui, me direz-vous, puisque nous possédons un codage génétique qui nous est propre, l'ADN, et pourtant, depuis les années 2000, les biologistes ne soutiennent plus, dans leur grande majorité, cette conception de l'identité humaine. Les biologistes défendent désormais une forme d'interactionnisme où, à la dimension génétique, il faut y associer l'environnement de l'individu et les rapports qu'il entretient avec les autres. Au fil des pages, je vous propose de vous intéresser au livre « L'identité, la part de l'autre, immunologie et philosophie » d'Edgardo Carosella et de Thomas Pradeux, livre paru en février 2010 chez Odile Jacob. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, professeur Carosella, on vous connaît bien maintenant. Vous êtes toujours correspondant à l'Académie des sciences, hématologue, directeur de recherche au CEA et chef de service de recherche hémato-immunologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes également vice-président du Centre d'études du polymorphisme humain, le CEPH. Et Thomas Pradeux, vous êtes philosophe, maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne et membre associé de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Edgardo Carosella, Thomas Pradeux, nous a longtemps dit que nous étions tous uniques grâce à notre ADN qui nous est propre. Et d'ailleurs, les tests ADN sont par exemple très utiles dans les enquêtes policières pour mettre la main sur un meurtrier. Aidez-nous à faire la part des choses sur ce que nous appelons parfois trop rapidement l'identité. Edgardo Carosella, pour commencer.
Je pense que l'identité comprise seulement comme unicité génétique de la personne ne serait qu'un égotisme, qui n'apporterait rien si ce n'est que l'autosatisfaction de ses savoirs uniques, comme le seraient nombreux singuliers, sans artistes, sans critiques, ni admirateurs. Autrement dit, un nombre purement performatif. Et en effet, de plus en plus, nous savons en biologie que l'identité d'individu, c'est le produit d'une double influence, celle des gènes et celle de l'environnement.
Thomas Pradeux, sur ce qu'on appelle identité et sur la définition qu'on peut apporter à l'identité.
Oui, je pense qu'une des choses qui a été souvent trop faite, c'est de confondre justement l'identité avec l'unicité, pensant que la seule manière de nous définir, c'était d'essayer de nous départager, de montrer en quoi on était vraiment tout seul à être tel qu'on est. Et une des choses qu'on a essayé de montrer, c'est que même si en un sens, c'est vrai, on a probablement exagéré cette importance de la différence individuelle. Et d'autre part, on a oublié que l'identité, c'était pas seulement ça. L'identité, c'est pas seulement se proclamer unique, c'est aussi comprendre comment on se construit au fil du temps. C'est un point sur lequel on a essayé d'insister.
Et ne pas confondre appartenance et identité. Vous revenez d'ailleurs sur ce sujet au début de votre livre en citant Michel Serres de l'Académie française.
C'est très important et c'est une erreur qu'on fait très souvent. Et les débats récents sur l'identité nationale empêchaient de cela, c'est-à-dire qu'ils sont confondus en grande partie. Appartenance, identité. Si on dit qui vous êtes et vous répondez « Eh bien, je suis Élodie Courtejoie, journaliste académique », eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, je m'appelle Élodie, donc probablement partant à un certain nombre de personnes qui sont nées le 22 octobre, n'est-ce pas ? Que leur fête, c'est le 22 octobre, c'est bien ça ?
Tout à fait, hein ? Vous êtes très bien renseigné.
Voilà, et partant à la famille Courtejoie. Donc, tout ça sont des appartements, ça ne définit absolument pas l'individu. Et c'est une erreur de, à chaque fois, croire que l'identité, c'est l'appartenance.
Sommes-nous uniques, alors ?
Oui,
Edgardo Carosella et Thomas Pradeux ensuite.
Nous sommes uniques, mais nous sommes tous semblables. Il faut savoir que notre ADN, il est identique entre nous, nos amis d'Afrique, des États-Unis, enfin, peu importe le lieu, nous sommes identiques à 99,9%. Donc, il nous sépare qu'une toute petite différence, que c'est 0,1%. Alors, c'est 0,1%, c'est cette différence qui permet à chaque individu sa créativité et ne pas s'effondrer dans une masse, c'est-à-dire sa liberté. Donc on est unique, mais on est semblable car nous appartenons tous à la même espèce que c'est l'espèce humaine.
Thomas Pradeux.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'unicité est tout à fait vraie, elle est avérée, elle est réelle. Simplement, c'est comme s'il y avait plus que l'unicité. C'est-à-dire, paradoxalement, on veut à chaque fois dire bah, l'unicité, c'est ce qui est nous-mêmes jusqu'au bout de nous-mêmes. En fait, en un autre sens, oui, on est unique, mais on est aussi très semblables les uns aux autres. Et finalement, ce qui nous unit, c'est peut-être aussi important que ce qui nous différencie. Et il y a cette comparaison dans le livre, c'est le jeu des sept différences que les enfants font. Ce sont deux images qui sont quasiment identiques. Le fait qu'il y ait cette différence, est-ce que ça fait qu'on en déduit que les deux dessins sont strictement uniques? Non, on va avoir tendance à dire que c'est difficile de voir les différences. Et pour les êtres humains, parce que depuis quelque temps, on a montré que chacun de nous était unique, on en a déduit qu'on était finalement simplement unique. En réalité, on est unique sur fond d'identité. Et cette identité est extrêmement importante pour se comprendre. Par exemple, les mécanismes par lesquels nous pensons sont des mécanismes qui sont fondamentalement communs aux êtres humains. Simplement, il est vrai que chacun d'entre nous va les mettre en œuvre d'une manière qui lui est propre. Voilà ce qui nous semblait assez fondamental de rappeler.
Tout dépend de qu'est-ce que nous allons considérer comme important. Les 99,9% ou les 0,1%. Si nous considérons les 0,1%, donc que je suis unique, à ce moment-là, on a un peu le phénomène des tribus, n'est-ce pas, qui va cultiver ses rituels, ses coutumes, pour augmenter sa différence. Et nous pouvons glisser alors dans l'indifférence et le mépris vers l'autre. Si par contre, nous cultivons les 99,9%, eh bien, nous sommes en train de privilégier à ce moment-là la différence et pas l'indifférence. Tout le problème, il est là. Si nous privilégions les 0,1, c'est l'indifférence qu'on termine pour privilégier. Si c'est les 99,9%, c'est la différence et on ne se fonde pas dans la masse.
Alors, dans votre ouvrage, vous parlez dès le départ d'interactionnisme, hein, de cette interaction entre les gènes, vous en parliez à l'instant, et l'importance de l'environnement, environnement social, familial.
Tout à fait. Peu importe ce qu'on fait à l'âge adulte ou même à l'adolescence, avec les valeurs qu'on a été inculquées pendant l'enfance, ces valeurs, on peut les accepter, on peut les refuser. Néanmoins, ces valeurs restent très ancrées dans l'identité de chacun. Pourquoi ? Parce que l'enfant, avant d'être soi, il est soi pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, il devient soi.
Thomas Pradeux.
De ce point de vue, effectivement, la famille est toujours cruciale dans la définition de l'identité, même lorsqu'on décide de la rejeter ou qu'il se trouve qu'on est rejeté ou il y a des phénomènes de ce type-là. Aussi, très souvent, quand on parle avec des individus quels qu'ils soient, on se rend compte que souvent une personne ou deux dans leur vie a été décisive, hors famille, un ami, un professeur, une personne qui a compter de manière décisive, c'est-à-dire quand vous parlez avec cet individu, il va vous dire que dans la construction de lui-même, ça a été un aspect crucial. Et donc, il est clair que dans l'identité, dans la construction de l'identité, il y a un rôle décisif de l'entourage, de l'environnement, environnement social en un sens large, vraiment large, les individus susceptibles de nous influencer étant divers et pouvant avoir vraiment une influence radicale sur nous.
Alors, est-ce que l'identité est évolutive? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de nos rencontres, de ce cadre social, familial qui nous entoure, on va se construire une identité?
Effectivement, l'identité est évolutive en ce sens-là. Elle est constructive, elle est toujours en construction et les schémas qui sont probablement les plus erronés sont ceux qui considèrent que l'inné est, ou d'une quelconque manière la fixité est ce qui définit l'identité. En réalité, l'identité, c'est tous les jours quelque chose qui se construit de diverses manières et il est très important de comprendre que ceci est une vérité à la fois biologique et sociale. Les deux sont en réalité indissociables. C'est-à-dire que ce que nous venons de dire est vrai chaque jour d'un point de vue social, les interactions avec autrui, mais c'est vrai biologiquement aussi. Et biologiquement, on a trop cru que l'identité, par exemple, se limitait aux gènes, ce qui était une manière de dire que l'identité était préfixée, prédéterminée, oubliant qu'en réalité, même du point de vue biologique, je dirais peut-être surtout du point de vue biologique, c'est une construction de chaque instant peut-être. Et de ce point de vue, elle est évolutive, elle est en construction perpétuelle.
Edgardo Carosella sur cette notion.
Absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité fichée. On construit son identité, qu'elle soit biologique ou du soi, chaque jour. Et c'est pour cela, c'est le grand problème, n'est-ce pas, de se connaître soi-même, parce qu'une fois qu'on a essayé de se connaître soi-même, on est déjà quelqu'un d'autre.
Mais pourtant, dans votre livre, vous précisez qu'à la naissance, si on parle d'évolution de l'identité, ça sous-entend qu'à la naissance, tous les enfants auraient a priori la même identité. Et pourtant, ce n'est pas le cas.
Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que déjà, il y a chaque enfant, biologiquement, est différent, compris les vrais jumeaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les vrais jumeaux sont parfaitement identiques. Vous voyez, les systèmes immunologiques, par exemple, de ces vrais jumeaux, ou les systèmes nerveux de ces vrais jumeaux, ils sont constitués de la même façon. Ils sont les mêmes antigènes de compatibilité, ils sont les mêmes groupes. Néanmoins, tout comme les systèmes nerveux, les contacts, les rencontres qu'il va faire avec l'extérieur va faire que un développe un certain nombre d'anticorps, de réactions, et pas l'autre. Pareillement, les réactions d'un frère jumeau ne vont pas être identiques à l'autre. Il y a une étude assez importante suite aux fraudes qui avaient été réalisées sur ces 52 paires de jumeaux, et une étude plus sérieuse, et qui montrait qu'en définitive, c'était très difficile, car deux jumeaux élevés dans la même famille, il y avait un qui avait été plus près des parents et l'autre plus près des tantes, et il y avait des caractéristiques très différentes. Donc, même à la naissance, dès les premiers jours, les jumeaux sont différents et évoluent de façon différente, et ils se construisent de façon différente.
Attachons-nous plus particulièrement à l'autre. Est-ce que nous avons besoin de l'autre, du regard de l'autre, pour construire son identité ?
Absolument. Sans l'autre, nous ne sommes pratiquement rien. Je donne très souvent la comparaison d'un diamant. C'est-à-dire qu'un diamant, il y a son noyau, son essence, mais il y a plusieurs facettes. Et le regard de l'autre, c'est en quelque sorte la lumière qui se porte sur ce diamant et qui permet de briller à chaque facette. Probablement la frustration vient justement de ces facettes qui jamais sont connues la lumière, dont pas le regard de l'autre.
Thomas Pradeux.
Oui, je pense qu'il y a de très belles pages d'Aristote sur l'amitié où Aristote dit que l'ami, c'est celui qui me dit qui je suis. C'est-à-dire que c'est en lui que je vois le miroir de ce que je suis ou peut-être de ce que j'aimerais être. C'est-à-dire qu'il me donne à voir ce que j'essaie d'être dans mes actions, dans ma vertu, autant que faire se peut, etc. Et d'une certaine manière, la biologie nous donne à voir quelque chose d'aussi fort qui est que l'autre est toujours présent dans la construction du soi, dans la construction d'une identité. Et puis, l'autre peut être véritablement constitutif de notre identité au sens où on croit toujours que l'autre est finalement ce que le soi va se mettre à rencontrer. En fait, le soi est dès le début, presque initialement et presque constamment en interaction avec l'autre et en interaction constitutive. C'est de ce point de vue que notre perspective n'est pas seulement un interactionnisme, comme vous le disiez tout à l'heure, mais quelque chose comme peut-être un interactionnisme de construction, donc un interactionnisme très fort, consistant à dire que l'autre est toujours constitutif du soi et peut-être dès les fondements de ce soi. Et là encore, d'un point de vue à la fois humain et social, et d'un point de vue biologique.
Ça me permet de vous poser la question que vous posez également dans votre livre. À force de dire que nous sommes tous différents, uniques, ne risque-t-on pas un éloignement entre les hommes ? Thomas Pradeux et ensuite professeur Carosella.
Oui, c'est le risque, c'est véritablement le risque. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'objection à l'affirmation de l'unicité. Nous avons une objection à, disons, une affirmation consistant à dire « puisque nous sommes uniques, chacun de nous est différent, certes ». Puisque nous sommes différents, ne faut-il pas, d'une certaine manière, prendre ses distances avec ceux qui sont justement différents de nous ? Alors la tendance de ça, ça va être soit un isolement, comme le disait M. Carosella tout à l'heure, ou alors ça peut être éventuellement un regroupement sur, disons, un certain nombre d'idées, de valeurs, ou disons un regroupement avec des personnes qui nous ressemblent, en se disant, nous sommes tous différents, mais il y en a certains avec lesquels je suis un peu plus proche, c'est-à-dire je me sens moins différent d'eux. Et ça, c'est un risque. Ça, c'est un risque, parce qu'en réalité, c'est pas de cette manière-là qu'on rend hommage à la différence. C'est pas en se mettant le plus possible avec des personnes qui nous ressemblent qu'on rend hommage à la différence. Être véritablement une personne qui a un souci de la différence et qui se dit que la différence est une chose importante, c'est précisément aller voir des gens qui sont proprement différents de nous et essayer de trouver un terrain commun avec ces gens-là. Ça me semble assez crucial.
Professeur Carosella, sur cette question.
C'est toujours plus facile d'être entre soi-même, n'est-ce pas, avec des gens qui vous ressemblent plutôt que ce qui est différent. Et c'est même le principe du communautarisme. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple de se trouver dans une communauté qui pense comme vous, qui fait même le même sport, enfin bref. Et pourquoi ? Et parce que privilégier la différence, ça veut dire aller à la rencontre de l'autre. Pour aller à la rencontre de l'autre, c'est connaître soi-même. C'est facile de le dire, mais c'est très difficile. Car se connaître à soi-même, c'est envoyer une image à l'autre. Et nous donnons bien des images, mais qui ne sont pas réelles. Thomas parlait tout à l'heure de l'amitié. C'est une chose formidable, car dans l'amitié, l'autre, c'est un soi, un autre soi-même. Un autre soi-même parce que l'autre ne voit pas les petits détails, mais plus loin que ça, sa vertu. Alors, entre l'autre, l'ami qui regarde la vertu, et s'ouvrir à l'autre, il y a un travail, il y a un chemin à parcourir. Et parfois, c'est plus facile de rester chez soi, bien entouré, avec ses copains qui le ressemblent.
Dans votre ouvrage, vous parlez des trois dimensions du soi. L'altérité du soi, le partage de soi et la permanence du soi. La permanence du soi, j'aimerais qu'on revienne dessus et que vous nous en parliez un peu plus pour nous présenter ce qu'on appelle la permanence du soi. Thomas Pradeux.
Alors, beaucoup de choses à dire sur la permanence du soi. L'idée de fond, c'est de réfléchir à la question de savoir si, une fois qu'on a fait le constat qu'être soi-même, c'est en réalité constamment changer, constamment se construire, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui reste. Et en fait, c'est une très vieille idée philosophique qui a quasiment toujours été tranchée dans un sens positif, consistant à dire oui, il y a un support de ce que nous sommes, il y a une sorte de substance ou d'identité qui est ce que nous restons à travers le temps. Et il est vrai qu'il y a quelque chose de ce type-là, mais il est vrai aussi que probablement la meilleure manière de comprendre ceci, c'est de le voir de manière rétrospective, c'est-à-dire de se dire que oui, à un moment donné dans le temps, je peux me retourner sur moi-même et comprendre ce qui a fait la permanence de mon identité. Ça ne veut pas forcément dire qu'initialement, dès le début, il y aurait comme un support prédéfini, et typiquement un support génétique, qui est une chose à laquelle on pourrait penser, et qui serait en fait le socle de toute mon existence. Probablement qu'il y a effectivement une identité au sens de quelque chose qui se maintient, mais que ce maintien se fait toujours, disons, comme le support de choses qui changent et qu'on comprend finalement de manière peut-être plus rétrospective que véritablement prospective.
Professeur Carosella.
Dans la construction de l'identité, c'est un long chemin que nous parcourons. Ce n'est pas fait des jours au lendemain, c'est tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Et ce qui oriente notre construction, c'est les principes de finitude. L'homme, c'est le seul animal qui sait qu'il va quitter ce monde. C'est à partir de cela qu'il construit constamment son identité. Et à un moment donné, c'est pas seulement d'être, mais de rester. Et ce qui constitue la transcendance. Et cette transcendance ne peut se construire qu'à travers l'humanité de l'autre. C'est-à-dire que je ne suis qu'à travers et avec l'humanité de l'autre. Et quand je quitterai cette terre, eh bien, il faut quand même que mon identité puisse avoir une transcendance. Et certainement, Thomas vous dirait, les trois niveaux de transcendance, d'après Platon, c'est-à-dire la première était la plus simple, de faire des enfants, n'est-ce pas ? Et on laisse sur cette terre des enfants. La deuxième, c'est de savoir faire remarquer par des grands œuvres ou des grands actes héroïques, donc que son homme reste sur la pierre, comme disaient les Grecs. Et enfin, les plus importantes et les plus nobles, c'était de, si je ne me trompe pas, de féconder, de cultiver dans l'âme des autres son discours. Ce qui a fait Socrate, qu'en fin de compte, il n'a rien écrit, il n'y a pas eu des enfants, et nous parlons toujours.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a probablement une manière d'établir une permanence de l'identité au-delà de soi-même, qui est une manière de dire que chaque jour, on va essayer autant que faire se peut d'être humain, le plus humain possible, de parler avec autrui et d'essayer, disons, de stimuler chez autrui le même genre de geste, le même genre de mouvement. C'est ce qu'a fait Socrate, hein, le philosophe le plus cité, le plus connu, qui n'a jamais rien écrit, mais d'autres ont écrit sur lui, à propos de lui. Et il est resté exactement comme le schéma que vient de décrire M. Carosella l'indique dans le Phèdre de Platon. C'est la meilleure manière d'imposer une permanence, ou plutôt de créer une permanence, c'est en fait de philosopher avec autrui, de discuter avec autrui et d'essayer d'en tirer quelque chose. Et puis ça donne à la fin ce que dans le Théétète, Platon appelle, disons, la tentative pour chaque homme vertueux de se rendre le plus possible semblable à un dieu. Et comment on fait pour se rendre semblable à un dieu ? Ben, on discute philosophie avec ses amis et puis avec des amis différents si possible et on regarde ce que ça peut induire.
Venons-en au soi et au non-soi, avec un exemple concret pour démarrer sur la greffe d'organes. Est-il plus difficile de construire une identité, son identité, lorsque on a bénéficié d'une greffe d'organes visible ou non visible ? Professeur Carosella.
Pour les greffes d'organes non apparentes, c'est-à-dire les organes vitaux, les cœurs, les foies, les reins, etc., il n'y a pas vraiment une rupture de l'identité. Les patients peuvent être interpellés. Il peut être questionné d'où vient cet organe, la vie de la personne qui portait cet organe. Mais il n'y a pas de rupture d'identité, car l'identité tout de même elle est basée sur trois images, n'est-ce pas ? L'image que j'ai de moi-même, l'image que les autres ont de moi, l'image que je crois que les autres ont de moi. Donc là, ne modifie en rien aucun de ces trois images. Par contre, quand il y a la greffe d'un organe apparent, donc les mains, les visages, que c'est très important. Alors là, il y a une rupture. Il y a une rupture qu'il faut reconstruire, mais qui peut se faire et qui s'est fait très bien. Dans la première greffe de main, apparemment, cette reconstruction n'a pas abouti et les malades, les patients demandaient d'être amputés. Chose qui a été faite en Angleterre. En revanche, pour les malades successifs, donc ils ont refait les deux mains et les greffes des visages, il y a eu une reconstruction d'identité qui était formidable. Surtout dans les greffes des visages, je crois, car c'était deux, une jeune femme et un jeune homme très similaires. Mais la façon dans laquelle la rupture de cette identité va avoir lieu est différente. Cette femme va perdre son identité, je dirais, du jour au lendemain, car pendant un sommeil profond, son visage est dévoré par son chien, tandis que les garçons, peu à peu, vont voir sa figure transformée à cause d'une maladie chronique. Les deux, ils vont avoir un autre visage, et les points en commun, c'est une renaissance, un recommencement de son identité, sans oublier ce qu'ils étaient. Et ça, c'est très positif, et je crois que c'est très important, car en définitive, comme Pascal le disait, et Thomas pour parler davantage, est-ce qu'en vraiment on aime l'autre par son image extérieure, alors là, n'importe quelle maladie nous ferait perdre de nos sentiments. Alors on l'aime pour sa vertu, pareillement. Donc ce n'est pas tout à fait ça. Mais la reconstruction est importante. Et surtout dans les cas de la greffe.
Mais vous parlez, pardon, après je vous laisse la parole Thomas Pradeux, vous parlez d'une démarche psychologique, mais dans le cas d'une greffe, il y a quand même un rejet. Le corps rejette ce qui n'est pas lui.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des systémologies que la définition de enfin, l'activité de ces systèmes, c'est de préserver l'intégrité biologique de l'individu. C'est une affaire très importante. Donc il va rejeter tout ce qui n'est pas de soi. Il y a de nombreuses exceptions quand même. Il ne faut pas oublier que, d'une part, nous tolérons, nous, les femmes, tolèrent leur enfant pendant 9 mois, sans aucun rejet. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 fois plus de bactéries dans notre organisme que des cellules. Et, par la même occasion, 100 fois plus de gènes que des bactéries, que des gènes humains. Et pourtant, nous ne le rejetons pas. Là, par contre, c'est un peu plus difficile. Il faut forcer cette acceptation. Et on va aller forcer à travers des immunosuppresseurs, enfin à travers un certain nombre des actions sur le système immune pour pouvoir l'accepter. Donc, cette acceptation, c'est une adoption. Donc, il y a une adoption biologique. On force l'acceptation. L'autre, par contre, c'est une construction.
Entre adoption et construction, Thomas Pradeux, quel est votre regard de philosophe ?
Je dirais que beaucoup de choses qui ont été dites effectivement sur le rejet, en particulier le rejet de greffe, disons, se situent dans une vision très fondée sur une certaine interprétation du soi et du non-soi. Il nous semble que les phénomènes de tolérance immunitaire sont beaucoup plus importants que ce qu'on dit habituellement. Les exemples que le professeur Carosella vient de donner sont tout à fait parlants sur les bactéries, par exemple. Nous sommes massivement, disons, des contenants à bactéries, bien plus que nous le croyons habituellement. Il se trouve donc que ces phénomènes de tolérance sont très importants et que du coup, nous avons des interprétations théoriques un petit peu divergentes des interprétations habituelles pour essayer de rendre compte de ces phénomènes de rejet et de tolérance. Cela étant dit, si on prend le cas d'une greffe d'organes, il est clair que dans l'immense majorité des cas, il y a un phénomène de rejet qui se produit. Et nous avons notre interprétation, disons notre explication de ce phénomène. Mais il est clair aussi qu'une des choses que nous avons voulu souligner, et à mon avis qui est cruciale, c'est que ces individus à qui on a fait une greffe de visage, même quand on s'en défend, on les a parfois un petit peu, c'est pas très aimable ce que je vais dire, mais considérés comme des sortes de monstres contemporains, c'est-à-dire une espèce d'image un petit peu effrayante pour laquelle on aurait enfin une sorte de solution, c'est-à-dire là on pourrait éventuellement faire quelque chose. Je comprends que ça puisse être difficile de voir certaines photos, etc. etc. Cela dit, peut-être que ces gens-là sont plutôt un modèle que des monstres, c'est-à-dire ils sont peut-être un modèle de personnes qui justement, parce qu'ils sont dans une situation particulière, doivent comprendre que l'identité, c'est une construction de chaque instant. Il se trouve que dans leur cas, il y a une rupture radicale et du coup, la nécessité d'une acceptation radicale. Mais en un sens, moi, je trouve qu'ils nous montrent la voie plus qu'ils nous montrent quelque chose que nous ne sommes pas. Ils nous disent finalement ce que nous avons à être chaque jour, c'est-à-dire des personnes réfléchissant sur eux-mêmes et devant se construire à chaque instant.
Alors nous pourrions parler beaucoup, encore pas mal de temps, de cette identité et de cette interaction entre l'environnement social, familial et puis ce qu'on appelle notre code génétique, l'ADN. Mais pour cela, je renvoie nos auditeurs à votre livre, L'identité, la part de l'autre, immunologie et philosophie, donc coécrit avec le professeur Carosella et vous, Thomas Pradeux, paru en février 2010 chez Odile Jacob. Merci à tous les deux et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Au revoir.